1901, place aux associations.
Et sur 1901 aujourd'hui, plein phare sur le nouvel horizon armé du Salut Reims avec Chantal au micro. Bonjour Chantal, bonjour.
Alors,
tout le monde.
Bonjour à tout le monde. Alors déjà oui, on va présenter aujourd'hui, on va s'intéresser à l'armée du Salut avec Étienne, Samira et Elia. Si vous souhaitez vous présenter en quelques mots, faites-le.
Bonjour à tous. Moi, c'est Samira. Je suis stagiaire MOS aujourd'hui à la Fondation Armée du Salut à Reims.
MOS, c'est quoi?
MOS, c'est que je prépare un master management des organisations du secteur sanitaire et social.
Merci.
Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Étienne Dequesne. Je suis chef de service sur les pôles logement et CHRS, donc centre d'hébergement et de réinsertion sociale, depuis septembre.
Bonjour à tous, moi c'est Elia, je suis en apprentissage au CHRS Nouvel Horizon pour une formation d'éducatrice spécialisée.
D'accord, bon, merci. Donc rapidement, on va dire que l'Armée du Salut, c'est quand même, c'est une fondation, c'est pas une association, mais bon, on vous reçoit quand même dans 1901 place aux associations, parce qu'on trouvait ça intéressant. Donc l'Armée du Salut, c'est depuis plus de 150 ans en France, hein, ça a été créé par un pasteur, bon voilà. Il y a pas mal de... C'est dans le monde entier, il y a 134 pays qui ont des fondations Armée du Salut, et en France, il y a 200 établissements et services. Voilà, donc ça c'était... pour dire un peu quelle est l'importance de cette fondation. Mais là, on est là surtout pour expliquer aux auditeurs, auditrices, quelles sont les différentes activités de l'Armée du Salut, à la fois les structures et le public accueilli.
Oui.
Donc on a 30 minutes pour parler de ça, alors on va prendre notre temps. Et quelles sont vos activités, en fait? Alors je ne sais pas qui veut commencer.
Alors, il faut savoir que sur le territoire, du coup, la Fondation Armée du Salut, on a plusieurs dispositifs. Nous, aujourd'hui, on est là pour mettre plus la lumière sur le pôle logement, donc la pension de famille, les personnes victimes de violences et le pôle insertion qui est le CHRS, Centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Donc, je vais laisser parler le chef de service.
Étienne.
Oui, je vais juste reparler au niveau de Reims où on a quatre pôles. On a le pôle asile intégration, le pôle hébergement d'urgence, le pôle logement et dans la continuité de Samira, on a aussi des dispositifs d'intermédiation locative, notamment l'Ukraine et les bails glissants en complément de ce qu'a dit Samira.
Les
bails glissants.
Un bail glissant. D'accord. Ce qui veut dire, en fait.
Ce qui veut dire que nous, Armée du Salut, on va se porter garant pour une bonne continuité d'accompagnement, c'est-à-dire que pour soutenir les bailleurs et les rassurer,
Mais vous êtes caution, en fait.
On se porte caution, pour faire simple, entre le bailleur, la personne accompagnée et nous, Fondation Armée du Salut, où on a un travers social qui va mettre un accompagnement dans la durée. Et si effectivement tout se passe bien, ce qu'on souhaite tous, la finalité d'action, c'est que le sous-locataire, entre guillemets, puisse passer le locataire et tout le monde y gagne dans une logique d'insertion et d'inclusion. Et donc c'est en tout cas l'objectif qui prédomine sur tout ce qui est bail glissant. Intermédiation locative.
D'accord. Et donc, vous avez parlé aussi de, enfin, Samira, d'un établissement pour femmes victimes de violences, c'est ça, Reims?
Exactement. Donc là, on est sur site. On a une quinzaine de places personnes victimes de violences, où on a une conseillère en économie sociale et familiale qui est totalement détachée sur ce dispositif-là, où on fait aussi régulièrement, tous les trois mois, des comités. Les comités en lien avec le SIAO, l'État.
Alors, SIAO, déroulez voir service intégré d'accueil et d'orientation, c'est
exactement
ça.
Exactement, c'est une circulaire depuis 2010 qui, en tout cas, remet vraiment une belle position sur la SIAO, qui aujourd'hui centralise les orientations sur le département de la Marne. Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils ont un regard sur les personnes victimes de violences, mais... Nous, on parle de Reims, Armée du Salut, mais d'autres structures, ça peut être sur Épernay, Vitry-de-François, Cézanne. Donc, on a aussi des places, en tout cas, qui sont dédiées pour ce public-là. Sur
là, c'est l'Armée du Salut qui gère ça, en fait. Hein,
et là,
mais
nous...
ça peut être une autre structure,
exactement.
La Croix-Rouge,
ou le club de prévention. Ou
voilà.
Sur
et donc, en fait, ce SIO, service intégré, c'est lui qui va regarder les dossiers et voir si les personnes sont éligibles, c'est ça?
Totalement. C'est eux qui ont le déclaratif sur le 115, donc des places dédiées totalement aux personnes victimes de violences. Et si l'évaluation fait qu'ils rentrent dans le dispositif, eux, en fonction des places disponibles, ils ont des tableaux tous les jours, ils peuvent nous orienter, une dame bien évidemment, en concertation avec moi, chef de service et nos équipes, pour valider ou non l'orientation.
Alors donc vous avez parlé des logements, la pension de famille également, c'est-à-dire que vous accueillez aussi des familles?
Oui. Je vais laisser Elia reprendre la main.
Elia, elle est la future éducatrice spécialisée.
Du coup, en parlant des familles, oui, au CHRS, on accueille plusieurs publics. Donc, ça peut être des personnes sortant de détention, par exemple, sortant de réseaux de prostitution, personnes nouvellement arrivées sur le territoire. Donc, en fait, on peut accueillir des familles.
Des primo-arrivants, même des sans-papiers, par exemple.
Ça arrive, mais c'est plus du coup, ça relève des missions de notre CADA.
Oui, voilà.
Du CADA, oui, le centre de demandeurs d'asile.
Les demandeurs d'asile, primo-arrivants, sont accompagnés plutôt par la SPADA sur Reims et ils vont plutôt être éligibles sur le l'UDA, CADA, dispositif de demande d'asile. Mais c'est l'OFI qui oriente, là, on est sur quelque chose de différent.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que je voulais.
C'est important de rappeler que.
C'est peut-être. Important de rappeler qu'il y a d'autres structures pour les demandeurs d'asile. Donc là, il y a des familles qui arrivent en toute légalité, si j'ose dire, mais qui n'ont rien, pas de logement.
C'est ça. Donc nous, en fait, quand ces personnes arrivent, on va surtout s'occuper de tout ce qui est ouverture de droits, accès à la santé. On accueille aussi des personnes qui ont des soucis d'addiction. Donc là, on va travailler avec des partenaires pour justement améliorer l'accompagnement sur la santé.
Un service d'addictologie, par exemple
On a des partenaires avec le XAPA, par exemple.
Alors, le XAPA, je ne sais pas ce que c'est personnellement, mais...
Centre de soins d'accompagnement.
Mais qui dépendent de quelle structure? De l'hôpital? Non, c'est une structure...
C'est indépendant et c'est avec Addiction France.
Exactement, c'est avec Addiction France,
d'accord.
Exactement. C'est important, en complément d'Elia, de rajouter qu'on a une convention avec Addiction France qui est totalement en cours. On va travailler sur les formations d'entretien motivationnel avec l'équipe d'éducateurs. Tous les mois, on fait venir aussi un intervenant, sensibilisation sur la MOA sans tabac, le drive January, sur la réduction des risques. Aujourd'hui, on a vu aussi des homologues de l'armée du salut, parce que quand on parle de Reims, on parle aussi de France. Moi, je suis allé sur Louviers, voir nos homologues, nos pères chefs de service, sur le travail d'accompagnement.
Mais vous avez des connexions avec d'autres centres de façon à éventuellement échanger,
exactement.
C'est ça.
Pouvoir améliorer ou voir un petit peu les différentes activités.
Oui. Nous, dans notre CHRS, c'est vrai qu'on travaille... pour l'objectif qui est quand même une insertion ou réinsertion professionnelle ou sociale. Mais c'est vrai qu'on va travailler, on va avoir une vision 360, c'est-à-dire on prend en compte les difficultés des personnes, que ce soit sur le plan professionnel, que sur le plan social ou même sur le plan santé. Donc avec nous, on a une conseillère en insertion professionnelle qui reçoit les personnes qui sont orientées chez nous dans notre CHRS. Le but, c'est de faire un petit récapitulatif de la situation aujourd'hui, les besoins de la personne et de mieux adapter du coup en conséquence notre accompagnement.
Alors justement, on parle d'éducateurs, d'éducatrices, en l'occurrence on en a une en face de nous, mais vous êtes nombreux je crois à Reims en tant que salarié, vous êtes 80 je crois, c'est ça?
Sur tous les pôles confondus, 80. Ouais. Moi sur mes pôles CHRS au logement, on est une vingtaine, 4 veilleurs de nuit, 4 agents d'accueil, une équipe de 7 travailleurs sociaux au sein du CHRS et sur mon pôle logement, j'ai 2 personnes dédiées sur la pension de famille et 2 travailleurs sociaux sur le reste des dispositifs.
D'accord. Oui, parce qu'en fait, on ne se rend pas bien compte, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'activités de l'armée du salut, parce que là, on parlait du logement, mais vous avez aussi des gens qui viennent à l'armée du salut, mais qui ne sont pas logés par l'armée du salut. C'est ça que j'aimerais comprendre. Qui peut s'adresser à l'armée du salut, en fait? Quels sont les gens qui... Enfin, tout le monde, non, parce que tout le monde n'a pas besoin de... Mais ils viennent pour être hébergés ou ils viennent pour d'autres choses, un accompagnement, pour trouver un travail, je ne sais pas.
Ça va dépendre du besoin de la personne. C'est soit ils viennent parce qu'ils ont des difficultés d'hébergement, donc ils sont orientés, c'est pas
le propre nom,
via le SIAO, bien sûr, ou par rapport aux mesures, du coup, ASL.
Alors, dites-nous, c'est quoi ça?
Donc, la SLS, je vais reprendre la main, j'en étais pendant 5 ans, c'est plus simple. Donc, c'est l'accompagnement social lié au logement. Donc, ça, c'est très intéressant parce que tous les mois, on a des sorties du CHRS parce qu'effectivement, on travaille des objectifs sur une durée de 6 mois et la finalité d'action pour tout travailleur social, c'est aussi parfois l'accès au logement, la sortie de l'hébergement.
Mais c'est sûr, vous comptez 6 mois pour travailler la réinsertion sociale, voire professionnelle, mais déjà sociale, qui trouve un logement, enfin, ou même ceux dont vous parliez précédemment, quitte à être caution, mais qui puissent sortir de...
C'est ça. On travaille sur des objectifs sur 6 mois. Éventuellement, on peut faire des demandes de prolongation en fonction des situations qui sont validées ou invalidées par le SIAO et l'État en fonction des retours. Donc, pour reprendre la main sur la SLL, j'ai par exemple eu cette semaine...
Vous dites ASLM.
Accompagnement social lié au logement. Une personne qui a quitté le centre d'hébergement, qui a une proposition de logement, puisque c'est aussi le cœur de notre métier. On veut donner des garde-fous, des assurances aussi aux bailleurs, mais aussi aux personnes qu'on accompagne, parce que si on les voit en 2025-2026 et qu'ils ont un logement, c'est pas pour les revoir en 2027.
Oui.
Donc du coup, on travaille...
L'idée, c'est que ça dure, la pérennité.
On travaille des objectifs tels que l'accès au logement, mais le maintien au logement. Donc maintien au logement, on peut passer par la garantie des loyers. Donc ma collègue qui est CESF, donc conseillère en économie, s'assure du paiement régulier des loyers, ou par exemple, il y a 2 semaines, j'étais auprès d'un bailleur social où on fait des synthèses régulières pour s'assurer que tout est fluide. On s'assure aussi qu'on ait une bonne consommation des énergies. Donc ça peut être des visites au sein des co-appartements qu'on assure, par exemple, avec des partenaires tels que du DAF. On travaille aussi sur la gestion administrative en parallèle et du budget. Tous ces composants permettent justement de s'assurer d'une pérennisation de l'accès au logement et du maintien dans le logement. Et c'est ce qui fait qu'on a des sorties qui sont plus fluides sur la durée et que les personnes se maintiennent dans le logement a posteriori.
Mais il y a un vrai accompagnement. Enfin, c'est
exactement.
C'est souvent des gens qui ont besoin d'être accompagnés quand même. Et peut-être d'être rassurés aussi. Ça ne doit pas être simple pour eux non plus. Et quand je vous demandais, et est-ce que vous avez par exemple une aide alimentaire, est-ce que vous proposer, je sais pas, des repas aux gens. Enfin, je sais que vous faites des maraudes.
Dans tous les cas, ça va être par rapport au public et du profil du public. Oui, on a des personnes qui sont sans ressources. Il y a des personnes qui sont avec ressources. Donc, quand ils sont sans ressources, oui, on propose du coup des repas. Là, sur notre CHRS, on a la cuisine. Où ces repas vont être donnés donc matin, midi et soir gratuitement à ces personnes-là.
Oui, voilà, c'était ma question.
Pour des personnes qui sont dans notre CHRS et qui sont avec ressources, voilà, on va demander une participation financière.
Oui, c'est
financière.
Normal, s'ils ont des ressources.
Exactement. Donc c'est vraiment au cas par cas par rapport au profil des personnes que nous avons.
Et puis les personnes accompagnées qui ont des ressources, on a une cuisine pédagogique où justement elles peuvent elles-mêmes cuisiner.
Cuisiner, d'accord, voilà. Oui, donc c'est quand même un service. Parce que je suppose qu'il y a des familles aussi.
C'est ça,
oui,
il y a des familles.
Et des enfants.
Oui, les enfants aussi. Mmh. Dans le quotidien, on va venir proposer des activités, que ce soit interne ou externe, pour que ça ne soit pas qu'un quotidien d'hébergement pur. On essaye de maintenir un lien social aussi. On a un conseil de vie sociale où on anime des réunions pour recueillir leurs envies, les activités qu'ils ont envie de faire.
D'où la présence d'éducateurs.
C'est ça.
Oui. Vous, par exemple, votre activité, vous pourriez nous donner un exemple, Elia, en tant qu'éducatrice, on va dire en tant qu'éducatrice spécialisée, parce que là, vous l'êtes quasiment.
Là, par exemple, j'ai repris un projet de socio-esthétique, du coup, avec les personnes accompagnées. Donc, en fait, elles vont venir... là, j'ai surtout des femmes qui viennent me voir pour prendre rendez-vous avec moi, pour que ce soit soin du visage...
Oui, c'est important aussi,
c'est ça. La confiance en soi.
La confiance en soi, oui. Donc,
la valorisation, surtout de personnelle. L'image. Dans un processus d'insertion et ou de réinsertion, c'est très important d'avoir un regard, du coup, motivant, un regard sur sa propre personne qui est motivante.
Oui, oui, ça fait partie de notre accompagnement, de travailler l'hygiène avec les personnes, parce que des fois, c'est vrai que quand elles arrivent au CHRS, quand ce sont des personnes qui ont vécu très longuement à la rue, c'est...
Mais l'hygiène, c'est les pauvres, les personnes ne peuvent pas trop se laver dans la rue, c'est pas gagné. Hein.
Donc voilà, donc là, j'ai remis en place ce projet de socio-esthétique, et puis après, je vais essayer de voir pour avoir des partenaires extérieurs qui puissent venir au CHRS proposer des prestations aux personnes accompagnées.
Fait une bonne liaison, parce que j'allais vous demander si vous aviez des contacts avec d'autres, avec des associations, des partenaires. Je ne sais pas qui veut répondre. Enfin, là, déjà, vous vous en cherchez, mais...
Oui, en effet, on a plusieurs partenaires. On est en partenariat, par exemple, avec la Banque Alimentaire. On a aussi, on peut contacter le CFA dans l'optique du projet...
De Carud.
C'est ça.
C'est-à-dire Carud.
Carud, c'est Centre d'aide et d'accompagnement réduction pour les usagers de drogue.
Oui, donc c'est pour les addictions, en fait.
C'est ça.
Enfin, de drogue.
C'est ça.
Il y a d'autres addictions, mais là, ce sera la drogue. Oui.
Jusqu'à présent, si je peux me permettre, on n'a pas parlé beaucoup de chiffres. Non, on va pas noyer non plus les gens sous les chiffres. Mais est-ce que la région de Reims et en l'entour, c'est-à-dire votre circonscription, est particulièrement touchée par les phénomènes de paupérisation, par exemple ? Et de son logis en particulier.
Bah, comme tous les territoires, j'ai
envie. Est-ce que vous avez des comparatifs par rapport à d'autres régions ?
C'est évident de comparer, parce qu'il y a beaucoup de structures quand même.
On a la chance sur Reims d'avoir un beau maillage territorial. On a le SIAO qui fait partie d'un groupement effectivement de fédérateurs sociaux et médico-sociaux qui est composé notamment par nous, hein, l'Armée du Salut, on a la Croix-Rouge française.
Mais c'est ce que je disais, il y a plusieurs d'instances. Structures hein, qui
gèrent. Et malheureusement, dès qu'on a une sortie CHRS, on a une très très forte demande, il y a une grande liste d'attente où nous, dans le cadre de notre projet établissement, on vise les 97 dans le taux d'occupation.
C'est ça.
C'est parce qu'il y a une réelle aussi de demande. Donc on se bat au quotidien pour faire le meilleur accueil digne, le plus rapide possible pour que moins de personnes restent à la rue. Et il y a une réunion tous les mardis entre le SIAO et l'État. Nous, on a une semaine pour prodiguer l'accueil au sein de notre CHRS. Mais
c'est pas extensible non plus. Vous avez combien de places ?
On a, si on compte 6 appartements en diffus, on a plus d'une centaine de places, 108 places. Donc effectivement, nous, on a la chance d'avoir un gros CHRS sur Reims. Mais il faut qu'on travaille en complémentarité. On a le CCS de Chalon qui a des places CHRS à Chalon. Mmh. On a Jamais Seul. On a aussi le CHRS Les Primes Verts. Donc c'est un travail partenarial où on a des comités de veille sociale tous les mois avec le SIAO. Et on est en lien permanent de toute façon pour être dans la meilleure complémentarité offre-demande pour que le moins de personnes soient lésées. Encore hier à 19h, on m'a appelé aussi sur une astreinte pour une mise à l'abri auquel on a répondu totalement présent. Donc j'ai la fierté d'avoir une équipe très réactive sur des mises à l'abri parce que ça fait partie aussi du complément des places que je vous ai quantifié et on les garde le plus longtemps possible et on fait pas de sorties sèches dans la mesure du possible. Donc on œuvre tous au quotidien pour pérenniser le maximum de personnes.
Après, de toute façon, comme vous disiez, Samira, c'est difficile d'évaluer parce que bon, le rapport population, non, de toute façon,
oui,
on sait qu'en France...
Excuse-moi, je posais la question au regard des élections à venir qui vont poser le problème de la pauvreté, le taux de pauvreté dans les circonscriptions notamment qui seront appelées à se prononcer.
C'est une problématique politique, mais on ne rentre pas dans ce champ-là. Maintenant, la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs places qui sont fermées, que ce soit sur notre territoire, que ce soit sur plusieurs territoires de la France. C'est une problématique commune à toutes les associations. Donc c'est vrai que ces places qui sont fermées va entraîner une plus forte demande, ça va entraîner forcément une moins disponibilité d'autres places. Donc après, au quotidien, on essaye d'essayer de jongler avec.
Et en ce qui regarde les financements, puisqu'on n'a pas évoqué les problèmes du financement, le projet de loi de finances aujourd'hui, tel qu'il se présente, est-ce qu'il correspond à vos attentes ou est-ce que...
Alors, j'allais poser la question après, mais je voulais qu'on termine un petit peu sur les gens accueillis. Quel type de population ? Est-ce que c'est plus des gens âgés, parce qu'il y a des handicapés ? Enfin, vous accueillez tout le monde de toute façon, mais quelle est la typologie ? Est-ce qu'il y a une typologie de la population ? C'est très variable.
C'est très variable et ça dépend aussi. Des périodes, mais on n'a pas de public. On n'a pas de public type.
Voilà, on est sur un accueil inconditionnel, donc on va avoir autant des familles que des hommes seuls, des femmes avec enfants.
Femmes âgées aussi.
Personnes en situation de handicap aussi.
Oui, je sais que vous accueillez tout le monde. De toute façon, c'est un accueil, comme vous dites, inconditionnel. Ça, c'est clair. Ma question, c'était plutôt ce que vous recevez. Il n'y a pas de typologie. Donc, c'est de tout, en fait.
C'est vrai que la majorité, quand même, de droit commun. Mais on a des personnes étrangères, tous âges, tout type de personnes. On accueille tout le monde.
Oui, c'était plus dans l'autre sens que je posais la question, mais effectivement, c'est important de dire que vous accueillez tout le monde, quelle que soit l'origine, le sexe, la couleur de peau, la religion, etc.
Ah bah oui, ça, parce qu'on est un établissement qui est cadré aussi par des lois, donc notamment la 2002, qui vient rénover la science sociale et médico-sociale. Donc par rapport à ça, on répond à un besoin avant tout. Donc on ne répond pas à une orientation sexuelle, non, on ne répond pas à une orientation de croyance. Donc non, pas du tout.
Alors on va faire une petite pause musicale si vous voulez bien.
Et on reprendra la discussion après. Ok, c'est parti.
Le doux parfum du jasmin, les figues de barbarie, les chemins de rocaille qui montent vers le ciel pour toucher le soleil. Je me souviens, Tizi Ouzou. La terre de mes aïeux, il y a eu tant et tant de guerres, mais sans jamais baisser les yeux, car l'âme des berbères, pareille à une flamme, protégée par les montagnes, je me souviens d'Tizi Ouzou. Je n'ai jamais revu la plaine, ni les montagnes du Djoudjoura, et c'est au bord de la Seine que j'écris ces mots-là, si un jour le destin me ramène de ce côté, je connais le chemin, je me souviens Tizi Ouzou.
Direct de 90.6 à Chalon et en DAB à Reims, le Nouvel Horizon Armée du Salut sur Reims à l'antenne à 1901 avec Chantal.
Chantal, Étienne, Samira et Elia, bon, nous reprenons le cours. Alors on s'était arrêté sur insister sur le fait que vous accueillez tout le monde. Hein.
Oui.
Hormis les mineurs, un seul, isolé, ça vous ne les accueillez pas. Et il n'y a pas de typologie particulière du public.
Non.
Voilà. Non. Mais je me demandais comment les gens pensent à venir à l'Armée du Salut. Est-ce qu'il y a des gens qui les orientent vers vous? Je ne parle pas du dossier examiné par le SIAO, mais avant. Comment les gens pensent à s'adresser à l'Armée du Salut? Je ne sais pas trop. L'image qu'elle... Parce que ça, l'image de l'Armée du Salut, je ne sais pas... Moi, je pensais surtout à l'alimentaire, etc. J'ignorais complètement, avant de faire l'émission, de tout ce que vous proposiez, notamment en termes d'hébergement, mais à long terme, quoi. Enfin, et puis, côté... après, insérer les gens, enfin, leur permettre d'être locataires, caution, tout ça, je ne connaissais pas du tout. Alors, je ne sais pas si les gens connaissent, en fait. Vous savez pas, est-ce qu'il y a des gens qui vont plutôt les orienter vers vous
ou... On mobilise beaucoup le partenariat parce que ça va être ça. Ça dépend de nos dispositifs. Quand je prends le PVV, personnes victimes de violence, ok, on a sur le, on a plusieurs associations ou instances qui vont être du coup nous servir de veille pour dans les déclaratifs, que ça soit l'association Le Mas, que ça soit l'association La Croix-Rouge. Mais il faut savoir que aujourd'hui, je ne pense pas qu'on se lève et qu'on vienne directement sur le CHRS.
C'est non, non, c'est pas ça, mais justement, je me demandais comment... bon, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent et qui vous les orientent, ou des éducateurs...
Je pense qu'on travaille plutôt, surtout en réseau, de par ma casquette de chef de service. La semaine prochaine, je vais rencontrer deux personnes du CSAS. On est aussi en lien beaucoup avec les CSD, donc le département, qui ont un rôle de polyvalence de secteur, qui connaissent aussi chacun leur territoire, puisque sur la Marne, on a... 13 CSD, donc on a des assistantes sociales qui sont très ancrées sur des territoires, qui connaissent des problématiques.
Oui, c'est vrai, vous passez par les travailleurs sociaux
avec aussi, certains qui sont en QPV, donc des quartiers prioritaires avec une paupérisation et certaines problématiques récurrentes. Donc ça, c'est des réunions, des instances qu'on puisse passer sur des comités de veille sociale ou par des appels. Ou, moi, je rencontre la semaine prochaine aussi une chef de service de DUDAF pour partager sur des pratiques, notamment sur la pension de famille, sur l'ASLL qu'on avait dit tout à l'heure. Je vais rencontrer aussi une chef de service de Jamais Seul, une association. Donc je pense que c'est toute cette pérédance qui fait qu'on va gagner en efficience et on va mieux œuvrer pour l'accompagnement des gens. Et quand ils sont orientés chez nous, on ne peut qu'en tirer profit.
Et là, bon, je crois qu'on a fait... Il nous reste 3 minutes. Donc je voulais aussi, est-ce qu'on peut rapidement dire comment est financée l'Armée du Salut ?
Essentiellement, l'Armée du Salut est financée par l'État, d'accord, donc par la DD. Là, on est totalement pour parler, pour négocier tout ce qui est budget 2026-2030. Donc les financements Armée du Salut, là, on a des visions, ça c'est très intéressant, sur 5 ans. Là, on est vraiment en totale négociation, on va arriver sur la fin. Et c'est ce qui nous permet d'avoir tout un projet d'établissement très limpide qu'on peut développer sur 5 ans. Donc on a la chance à l'Armée du Salut d'avoir une vision sur un long terme, sur 5 ans. Et au-delà de ça, j'ai une partie du budget qui est dédiée sur les activités. Les activités CHRS qui peuvent reprendre le barbecue, qui est un budget qu'on dédie sur chaque été. On a, c'est très important historiquement parlant, le Donuts Day qui aura lieu cette année le 5 juin, où on fait vraiment appel à tous les partenaires de Reims. Tous les pôles sont mobilisés. On a eu tout un historique par rapport à ça. On a des budgets aussi pour faire des sorties au lac du Der, pour faire des sorties... plutôt ponctuel,
un gym balou. Il y a beaucoup d'activités proposées, oui.
C'est ça. Après, je ne sais pas si Elia va reprendre la main sur une ou deux activités qui t'a tenu à cœur sur l'année, mais je pense que ça peut être intéressant.
Très. C'est en projet, oui.
Alors ?
Bah, là, du coup, il y a le projet socio-esthétique. Et après, comme le disait Étienne, il y a aussi des activités qu'on fait en extérieur ou en intérieur. Là, par exemple, cette semaine, je suis allée avec un collègue. On a fait un futsal inter-service avec, du coup...
les PA.
Les personnes accompagnées. Et après, on met des activités où on peut faire activités jeux vidéo les week-ends. Ou voilà. J'ai fait de la peinture la semaine dernière. Donc, ça peut varier. On peut faire des sorties bowling, comme l'a dit Étienne, sorties lac du Der. Donc en fait, on essaye chaque semaine de proposer 2-3 activités pour les personnes accompagnées.
Petite rétrospective sur les 3 derniers mois, on a eu Halloween, on a eu bowling, on a eu patinage, on a eu le marché de Noël, on a eu une équipe vraiment dynamique qui s'est mobilisée sur des activités intérieures. Là, sur fin mars, je vais faire venir Unicité pour projeter des courts-métrages. On a eu un ciné-débat assez récemment qui a mobilisé beaucoup de personnes accompagnées, où là, justement, on essaie de dédier un petit budget pour des pop-corns, un moment convivial. Et ce qui, en fait, l'idée, c'est d'alimenter un débat. On vraiment très constructif et clairement j'ai des accueils assez positifs à chaque fois. Donc, oui.
Alors je vais être obligée de donner le clap de fin puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Alors déjà, ben, je pense que ça permettra aux auditeurs et auditrices de mieux connaître les activités de l'Armée du Salut, parce qu'on a souvent une image un peu vieillotte. Enfin, en tout cas, c'était mon cas. Je pense que je ne suis pas la seule. Et ben, je vous remercie tous les trois. Et ma foi, le contact, vous êtes... Il y a un mail. Hein.
Oui.
Vous avez un site et le siège, c'est rue de Tessy? Ou c'est juste
c'est
le
ça,
CHRS
ça,
rue non, c'est le siège, oui. Eh bien, on mettra tout ça dans le, en accompagnement du podcast et je, pour les auditeurs et auditrices. Les émissions sont systématiquement mises en podcast. Merci à vous, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir. Bonne journée.